Alors, je prends le premier papier, je le déplie.
Bonjour. Le podcast des petits papiers, ce sont des mots inscrits sur des papiers et un invité pour les commenter et se raconter. Notre invité aurait pu être un cinéaste allemand, puisque c'est le pays où il est né, s'il avait été accepté à l'examen à l'école de cinéma de Munich. Mais c'est à New York, puis à Paris, qu'il suivra des études de cinéma. Des études qui l'amèneront à réaliser Harry, un ami qui vous veut du bien, Lemming, Seules les bêtes et La nuit du 12, entre autres films. Et c'est donc grâce à lui que Bouly Lanners a pu s'écrier « Putain, je viens de Liège, quand même !» en allant chercher son César sur la scène de l'Olympia en 2023. Ce soir-là, La nuit du 12 a décroché 5 autres récompenses. Et aujourd'hui, au cinéma, un autre film au cœur de l'institution policière, Dossier 137, réalisé par Dominique Moll, notre invité du jour. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien. J'ai d'ailleurs un t-shirt sur lequel, qui a été édité par le cinéma Les Green New à Liège, où il y a marqué Putain, je suis de Liège quand même.
Ouais. C'est vrai qu'il y a eu, je me rappelle qu'il y a eu une série de t-shirts. Oui, évidemment, on peut comprendre Bouly aussi. Mais vous aussi, qu'est-ce que ça fait? Il y avait déjà eu d'autres récompenses. Il y en a eu beaucoup. La première, ça a été d'ailleurs pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Qu'est-ce que ça fait de recevoir des récompenses?
Ça fait plaisir, bien sûr. Enfin, c'est une reconnaissance des gens du métier, donc ça fait plaisir. Après, ça change. Enfin, comme ça vient après l'exploitation du film dans les salles, ça change pas grand-chose à la carrière du film, mais ça confirme que le film.
Ça dépend.
Apprécié.
Ça, c'est pour les Césars. Mais si c'était à Cannes, par exemple, là, ça vient
alors,
avant.
Oui, alors ouais. Cannes, c'est autre chose. Enfin, indépendamment des récompenses, c'est une rampe de lancement formidable pour un film, parce que quand ça se passe bien, évidemment, la presse, les médias en parlent, les exploitants voient le film, commencent à s'y intéresser. Donc c'est... Non, ça c'est très important.
Ah oui, et puis j'imagine que des récompenses, ça ouvre des portes ou des perspectives pour la suite. C'est plus facile de refaire un film quand on a eu 6 Césars que quand on n'en a pas eu.
Oui, mais c'est pas automatique. C'est pas non plus les vannes qui s'ouvrent et l'argent qui se déverse sur le prochain film. Enfin, à chaque fois, il faut quand même convaincre. Il faut que le scénario plaise. C'est pas du tout cuit non plus.
Dominique Moll, Dossier 137. Je vais essayer de pitcher en quelques mots ce film. Stéphanie, incarnée par Léa Drucker, est enquêtrice à l'IGPN, la police des polices. Elle se retrouve en charge d'une enquête concernant un jeune homme, Guillaume, qui a été grièvement blessé par un tir policier de LBD. C'est une arme qui tire des balles de défense, un flashball, on appelle ça aussi. Ça se passe lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris le 8 décembre 2018. Cette manifestation qui a réellement eu lieu, qui a été particulièrement chaotique et violente. Le rôle de Stéphanie et de ses collègues, c'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé et de déterminer s'il y a faute policière ou pas. Voilà pour le pitch. C'est un film qui arrive à un moment où on parle de plus en plus des violences policières.
Oui, c'est vrai que, il se trouve qu'il y a plusieurs affaires dont on a parlé juste avant la sortie du film. Il y a évidemment les vidéos très choquantes de Sainte-Soline où on voit des gendarmes se réjouir de blesser des manifestants, faire des tirs tendus avec des lance-grenades, ce qui est complètement interdit et très dangereux. Et se réjouir aussi on a l'impression qu'ils se croient dans un jeu vidéo où on se rend compte qu'il y a un problème visiblement de recrutement, de formation et d'encadrement. Et où il y a aussi un manque de... suite à ça, de clarté de la parole politique qui devrait dire ce sont des comportements qui sont totalement inacceptables et où on sent toujours une crainte de se mettre la police à dos, donc on marche sur des œufs, donc il faut surtout pas prononcer le mot de violence policière alors que ça serait assez salutaire de le faire. Et ça veut pas dire qu'on jette l'opprobre sur toute la police, mais en nommant les choses sur ceux qui commettent des fautes et des violences, ça rend, je pense, aussi service à ceux qui essayent de bien faire leur travail. Donc ça serait vraiment salutaire de le faire.
Et puis, j'ai quand même envie de dire que c'est pas noir et blanc, qu'il y a de la nuance dans le propos, dans votre film, dans la manière de regarder aussi ces policiers. Hein. Ça veut pas dire qu'on est forcément toujours un salaud ou toujours un policier exemplaire. Il y a un entre-deux dans lequel viennent se mettre beaucoup de policiers. Aussi, on le comprend parce que vous parliez d'encadrement. Il y a parfois un manque autour de ça ou des consignes qui ne sont pas claires ou qui sont expéditives ou...
Oui, il y a toute une rhétorique qui accompagne le maintien de l'ordre. C'est vrai qu'en France, la doctrine du maintien de l'ordre est quand même de plus en plus basée sur l'idée de la répression, de considérer qu'en face, ce sont tous des individus hostiles. Il faut neutraliser cette généralisation, évidemment dangereuse, enfin de la même façon que de généraliser en disant que tous les policiers sont des bâtards ou ce genre de choses. Enfin, le maintien de l'ordre est un métier éprouvant. Il y a des situations violentes où les policiers prennent plein la figure. Donc il ne s'agit pas du tout de nier ça, mais ça ne justifie pas tout. Et c'est vrai que quand le politique tient des discours guerriers et dit voilà, il faut sauver la République, nous sommes en état de guerre, les gens en face veulent détruire la République, et ça encourage et qu'ils équipent les forces de l'ordre avec des armes dont on dit qu'elles sont non létales mais qui sont quand même très très dangereuses, ça pousse à l'utilisation de ces armes, et l'utilisation de ces armes ne peut créer que des blessures graves, et d'autant plus quand on en voit dans la rue des unités qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre.
Au cœur de votre film, il y a la problématique, il y a la BRI, qui est une brigade d'intervention française qui intervient sur le terrorisme, les prises d'otages. Et en parallèle de la sortie de votre film, il y a la série Des Vivants, qui a fait beaucoup de bruit aussi, qui revient sur les attentats du Bataclan, où on a considéré, à très juste titre, les policiers de la BRI comme des héros.
Oui, tout à fait à juste titre. Ouais. Tout à fait à juste titre. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est cette contradiction.
Parce qu'évidemment, on en parle dans votre film, on l'évoque, hein, cet héroïsme au Bataclan, bien sûr.
Ce sont des héros, enfin l'ex-mari du personnage incarné par Léa Drucker dans le film lui reproche d'enquêter sur des collègues
qui sont des héros,
considérés comme des héros, mais ça ne les rend pas pour autant intouchables et infaillibles.
Quels ont été les retours de la police sur votre film, si vous en avez eu?
Oui, j'en ai eu. Alors bon, il y a eu les retours d'enquêtrices et d'enquêteurs de l'IGPN.
Oui, qui est la police des polices.
Voilà, qui ont vu le film et qui l'ont beaucoup apprécié. Enfin, ce qui est un peu normal parce que leur travail est plutôt valorisé. Enfin, le personnage de Léa Drucker est quand même une enquêtrice assez exemplaire. Mais il y a aussi d'autres policiers qui ont vu le film, enfin, qui est des policiers que je connais de Grenoble, enfin, qui sont à la PJ de Grenoble.
Oui, puisque la nuit du 12, vous aviez tourné ça à Grenoble et vous aviez fait une immersion là-bas aussi.
C'est ça, exactement. Ouais. Et jusqu'à présent, enfin, tous les retours de policiers que j'ai eus sont très positifs aussi. Déjà, ils trouvent que le travail de la police est montré de façon très juste. Enfin, même si c'est des enquêteurs de l'IGPN, c'est quand même des enquêtes policières, et que tous ne cautionnent pas les dysfonctionnements et les violences que peuvent commettre certains de leurs collègues.
Le principe de cette émission, c'est de parler de votre travail, de votre parcours aussi, à travers des mots qui devraient évoquer des choses pour vous. Il y a des papiers devant vous, ils sont pliés. Vous en piochez un et puis vous voyez si ça vous évoque quelque chose.
Ok, alors je prends le premier papier, je le déplie. Collectif. Alors, ça évoque plusieurs choses. Enfin, déjà, le travail en équipe sur un film, sur un tournage, c'est un collectif, pas dans le sens où on prendrait les décisions en votant à chaque fois de façon démocratique. Il faut que le réalisateur ou la réalisatrice donne le cap et prenne les décisions. Mais c'est toujours, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec les personnes qui font partie de l'équipe et qui ont tous des talents dans leur domaine et dont, sur lequel je veux, j'aime m'appuyer et dialoguer avec eux pour que leurs talents servent justement à ce que le film soit le mieux possible. Ça évoque aussi pour moi la période après l'IDEC, donc après l'école de cinéma, où avec certains camarades étudiants, enfin, que j'avais rencontrés à l'IDEC, dont Laurent Cantet,
dont
Gilles Marchand, avec qui je travaille depuis longtemps, ouais. Et on écrit les scénarios ensemble, mais aussi d'autres, Vincent Dietschy, Thomas Bardinet, autour d'une petite structure de production qui s'appelait Sérénade. On travaillait sur les courts-métrages et même les premiers longs-métrages des uns des autres à des postes différents.
Ouais.
Et c'était une façon très enrichissante de continuer à apprendre, de voir les autres travailler et aussi de tourner sur les différents postes techniques.
Mais ça s'est prolongé, ça, hein, sur le travail entre vous, Laurent Cantet, Gilles Marchand, Vincent Dietschy. Vous avez continué à faire ça, mais c'est une fameuse richesse aussi quand on est réalisateur, j'imagine, de pouvoir maîtriser une partie du montage, de savoir comment on organise un tournage en étant assistant réal ou enfin, quel que soit le poste qu'on occupe, c'est une fameuse richesse, non ?
Alors, je pense que oui. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai exploré plusieurs postes techniques, y compris voilà, des régisseurs, enfin, ce qui est un peu loin de la mise en scène, mais de connaître les contraintes de chacun et de ce qu'il peut apporter permet aussi à créer une symbiose encore plus forte avec toute l'équipe. Donc, c'est effectivement une grande richesse.
Oui, ça évite d'être au-dessus de l'équipe et de ne pas comprendre surtout ce qui se passe pour l'un ou pour l'autre ou les problèmes rencontrés. Je pense que vous avez joué des petits rôles aussi. Ça aide aussi, ça ?
Oui, alors vraiment très exceptionnellement, j'ai joué un petit rôle dans le premier film de Valérie Donzelli, La Reine des Pommes, où je joue un jogger qui se fait taper dessus par le personnage principal parce qu'elle a l'impression que j'écoute sa conversation au téléphone. Donc j'étais affublé d'un costume de jogging qui était beaucoup trop petit pour moi. Donc je crois que j'ai l'air un peu ridicule dans le film, mais ça fait partie du personnage. Voilà, mais je pense pas avoir beaucoup de talent pour le jeu.
Mais vous vous êtes retrouvé dans une position d'acteur
oui,
aussi. Qu'est-ce que ça vous a appris par rapport à votre métier de réalisateur ?
Bah, ça m'a appris que c'est pas quelque chose de simple,
ouais.
Enfin, qu'on se sent regardé, qu'on est vite un peu trop conscient de ce qu'on fait, qu'il faut savoir...
Des vêtements qu'on porte, apparemment.
Pardon ?
Des vêtements qu'on porte,
voilà,
puisque vous dites encore
aussi,
que
voilà,
vous rendez ridicule.
Tout à fait. Et donc, et que du coup, le regard du réalisateur ou de la réalisatrice est très important quand on sait qu'on peut s'appuyer dessus et qu'on peut lui faire confiance. Qu'on sait que le retour qu'on va avoir est un vrai retour basé sur un vrai regard et une vraie écoute.
Il y a dans la manière collective de travailler, dans l'équipe, je pense aussi pour vous des fidélités. Je pense au monteur Laurent Rouen avec
oui,
qui vous travaillez
oui,
depuis
oui.
quelques années, l'ingé son aussi,
ah bah, oui,
François
alors,
Morel qui est régulier, et puis le co-scénariste, c'est Gilles Marchand avec qui vous avez déjà multiplié les expériences.
Oui, c'est vrai, Gilles Marchand, bah, on s'est connus vraiment à l'école de cinéma, donc ça fait plus de 40 ans qu'on travaille ensemble. On a écrit quasi tous nos films respectifs ensemble, puisque lui est aussi réalisateur. François Morel, l'ingénieur du son, est là depuis mon tout premier long-métrage, et même avant déjà les courts-métrages de Sérénade. Laurent Rouen, le monteur, ça fait la quatrième fois qu'on travaille ensemble. Pareil pour le directeur de la photo, Patrick Ghiringhelli. L'accessoiriste aussi, il est là depuis Harry, un ami qui vous veut du bien. La maquilleuse aussi, Katsch Van Damme.
Qui est belge
qui est d'ailleurs
ouais.
Tout à fait.
C'est quelque chose de rassurant, Dominique Moll, d'avoir justement cette équipe qu'on retrouve, dont on connaît le travail. Et j'imagine que même si c'est rassurant, il faut aussi essayer de ne pas tomber dans un confort ou une routine. Donc comment on trouve l'équilibre ?
Enfin, si j'aime travailler avec eux, c'est que ce sont justement des personnes qui ne tombent pas dans la routine et qu'à chaque fois, chaque nouveau projet est un nouveau défi qui pose des nouvelles questions et où ça, voilà, ça rebat à chaque fois les cartes. Et Du coup, c'est rassurant de pouvoir s'appuyer sur des gens de confiance, mais aussi parce que je sais qu'ils vont pas, ils viennent pas pointer pour travailler. Ils viennent pour parce qu'ils sont passionnés, et parce qu'ils aiment travailler avec moi et sur mes films, et qu'ils vont essayer de trouver les solutions les plus adaptées. Voilà, donc ça, c'est formidable.
Ouais.
Alors, il y a écrit « casté ». Casté, qui est un mot qui est un peu moche, en fait.
C'est un peu moche, ouais. Comme moche. Casting, c'est un peu moche
voilà,
aussi.
Qui vient du casting et qui veut dire faire la distribution des rôles, enfin choisir les comédiens pour les différents personnages. Et ça, c'est un processus que j'aime beaucoup, pour lequel on prend beaucoup de temps. Là aussi, il y a une fidélité avec les deux directrices de casting, Fanny de Doncel et Agatha Sanforder, avec qui je travaille depuis quelques films aussi.
Pour expliquer, directrice de casting, c'est-à-dire qu'elles font une première présélection qu'elles vous soumettent en fonction des profils que vous recherchez, comment ça se passe ?
Oui, c'est un peu ça. Enfin, là, concrètement, elles lisent le scénario, on va échanger dessus. Il y a peut-être des choix qui sont déjà faits. Par exemple, pour Dossier 137, je savais que... Enfin, j'avais très envie de travailler avec Léa Drucker pour le rôle principal. Je lui avais proposé, elle avait déjà dit oui. Donc voilà, on le savait. Et puis après, je les encourage à voir pour chaque rôle le plus de comédiennes et de comédiens possible et de faire des essais avec elle et avec eux, des essais vidéo. Les premiers, j'y assiste pas, c'est vraiment elles qui le font sur des scènes qui viennent soit du scénario, soit que j'ai écrit en plus pour pas trop épuiser les scènes du scénario non plus.
Ça peut être sur des scènes d'anciens films aussi.
Non, c'est vraiment lié au projet. Donc ça peut être des scènes qui auraient pu être dans le film
ou qui ont été coupées
pendant l'écriture du scénario ou que j'invente carrément, mais où c'est quand même les personnages du film. Et surtout, je les encourage à voir des personnes que je ne connais pas, dont je ne connais pas le visage.
Des personnes que vous ne connaissez pas ou que le public ne connaît pas ?
Les deux. Qui sont en tout cas pas forcément très identifiés. Donc sur certains personnages, je peux avoir des idées que je leur donne, mais sans que ça en exclue d'autres. Par exemple, pour le personnage d'Alicia, la femme de chambre de l'hôtel de luxe, j'avais pensé à Guslaji Malanda, qu'on a pu voir dans Saint-Omer, enfin que moi j'avais vu dans le film Saint-Omer et qui m'avait beaucoup impressionné. Mais je dis, voilà, j'aimerais bien que vous la voyez, mais vous voyez aussi d'autres comédiennes. Ouais. Pour qu'on puisse donner la chance aussi, une chance à d'autres et avoir la possibilité de comparer. Bon, à l'arrivée, c'est effectivement Guslaji Malanda qui a été retenu. Et donc, voilà. Donc, elle voit pour chaque rôle un certain nombre de personnes. Après, on voit ces vidéos ensemble et on fait un premier choix. Il y en a qu'on retient. Ça s'appelle après le callback, parce qu'on les rappelle, donc ils reviennent et vont soit retravailler sur la même scène ou sur une autre scène, mais en ma présence. Donc là, je suis là, donc je peux les diriger, les pousser dans une direction ou une autre, et parfois aussi, enfin notamment pour Dossier 137, mais aussi pour La Nuit du 12, comme il y a des équipes d'enquêteurs, il faut aussi que la dynamique de groupe fonctionne. Donc parfois, on les fait revenir pas individuellement, mais par deux ou trois ou quatre pour voir comment ils fonctionnent aussi en groupe. Et donc, c'est des scènes qui sont, pareil, écrites pour ça, où la parole circule. Et voilà, et donc il peut y avoir un premier callback, un deuxième callback, ça peut prendre du temps, et puis petit à petit on constitue comme ça la troupe et on choisit des individualités, mais aussi les comédiens ou les comédiennes les uns par rapport aux autres.
Parce que par
exemple, dans Dossier 137, il y a une famille de manifestants avec la maman et trois de ses enfants qui ont la vingtaine. Et donc, il faut qu'on puisse y croire à cette famille.
Oui.
Donc ça, c'est important aussi. Donc, parfois, il y a des critères un peu physiques qui peuvent jouer aussi. Et donc, voilà, petit à petit, on affine et on constitue notre ensemble. Et c'est vrai que sur Dossier 137, il y avait quand même beaucoup de rôles. Parfois, il y a des rôles qui ont qu'une scène, qui vont avoir qu'un jour de tournage, mais c'est pas pour autant qu'il faut les négliger. C'est presque plus important parce que il faut que le personnage en une seule scène existe, raconte quelque chose, que le spectateur puisse se raconter quelque chose sur ce personnage.
Donc ouais, le détail est important chez vous, hein, je pense, dans votre travail ou la manière de l'envisager.
Oui, enfin, tous les détails contribuent à la réussite d'un film, et ça peut être le choix d'un accessoire ou la couleur du mur d'un bureau de la police des polices. Enfin, voilà, tout est important. Et après aussi, bon, évidemment, le choix des comédiens, des décors, les costumes aussi, très important, les costumes. Et puis après, par la suite aussi, il y a tout le travail sur le ouais. son, qui est fait en post-production, tout ça. Oui.
Est-ce que vous êtes attentif aux détails et aux lieux ? Je vous pose la question parce que quand vous êtes entré dans ce studio, vous avez observé des choses du studio et qu'on est en fait dans un décor un peu années 70 encore, hein, même s'il a été modernisé. Est-ce que dans la vie, vous êtes attentif aussi du coup aux détails, aux lieux, comme ça, quand vous arrivez ? Est-ce qu'il y a une sorte de déformation qui vous fait voir les choses comme si vous étiez en train de cadrer ?
Peut-être pas en train de cadrer, mais en tout cas, enfin, ici, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est un décor incroyable, ces studios avec voilà, les lamelles de bois sur les parois, les vitres qui donnent sur un autre studio. Enfin, tout de suite, ça crée des perspectives, les rideaux qu'on peut ouvrir ou fermer, même les néons au plafond. Tout ça crée une ambiance, une atmosphère très forte. On sent effectivement encore la patine des années 60 ou 70, ou 70, pardon.
70.
Et 70, non. 70 tout court, oui. Oui, ça stimule l'imagination. Ouais. Oui, oui.
Je prends quelques secondes pour vous dire que dans un monde saturé d'images, les petits papiers font le choix de ne pas être filmés et sont donc moins visibles que d'autres rencontres diffusées sur les réseaux sociaux. On a donc besoin de vous, de vos étoiles, de vos commentaires et de vos partages si vous aimez ce podcast pour évoluer et rencontrer plus de monde encore, côté public et côté artiste. Donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour laisser des étoiles et un petit commentaire et pensez aussi à partager les épisodes autour de vous avec celles et ceux que ça pourrait intéressé. Merci. Et on continue à commenter des mots avec notre invité tout de suite.
Alors, le troisième mot, gratter. Ok, gratter, je pense à gratter avec un stylo, enfin à écrire, ouais. Ou se gratter la tête, ça va souvent ensemble. Et du coup, je pense au travail d'écriture qu'on fait avec mon camarade Gilles Marchand et aux séances de travail qu'on fait ensemble, qui sont toujours des moments stimulants parce que voilà, on remue plein de choses, de questions, on explore des pistes narratives possibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas une vraie méthode. Enfin, c'est dans les manuels de scénario, souvent il y a écrit voilà, il faut avoir le pitch, quel est l'argument du film, et puis après on fait un synopsis d'une demi-page, après un traitement de 3 pages, après un traitement de 10 pages, après un séquencier, etc. Et le dialogue, ça vient à la fin. Et en fait, nous, c'est pas ça. Enfin, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et le scénario pousse de manière un peu anarchique et organique à la fois. C'est-à-dire qu'on peut très vite se lancer dans l'écriture d'une scène de façon assez détaillée, déjà avec les dialogues. Parce que ça peut nous éclairer sur ce que le film va raconter, que ça peut nous faire rebondir vers d'autres scènes. Petit à petit, c'est un peu comme une champignonnière où il y aurait des champignons qui poussent beaucoup plus vite que d'autres. Et puis après, bon, il y en a certains qu'il faut couper, il y en a d'autres qu'il faut déplacer. Après, il faut quand même structurer tout ça. Et ça, c'est assez plaisant à faire.
C'est un moment que vous aimez, ouais, ce travail d'écriture.
Oui,
ouais.
Parce que c'est la fabrication d'un film est faite de moments très différents, avec des rythmes très différents et des pressions très différentes. L'écriture, on est tous les deux, on n'a pas de... Voilà, on sait qu'on ne peut pas passer 3 ans non plus à écrire un scénario, mais il n'y a pas de contrainte de temps. Ça ne coûte rien, en fait, parce qu'il n'y a pas de... de personnes à part nous qui sont employés, qu'il faut payer. Et donc, il y a le temps de la réflexion qui va aller en s'amenuisant parce que, une fois que le scénario est fini, toute la période de préparation, enfin, ce qui est passionnant aussi, parce que les choses prennent corps, on choisit les comédiens, tout à coup, les personnages qui étaient que sur le papier ont un corps, une âme, un visage, on choisit les décors, tout devient concret. Et là, on a encore relativement le temps aussi de réfléchir, de changer d'avis, etc. Après, pendant le tournage, on n'a plus du tout le temps de réfléchir à rien. Il faut y aller. C'est pour ça que la préparation est très importante, pour avoir réfléchi à tout en amont. Et après, au montage, on retombe dans une période qui ressemble plus à l'écriture. C'est-à-dire où on est...
Oui, c'est une nouvelle écriture, le montage.
C'est en quelque sorte une nouvelle écriture, tout à fait.
Dominique Moll, avec Gilles Marchand, vous aimez bien aller gratter parfois profondément sur les événements, comme c'est le cas dans Dossier 137, mais pas seulement aussi, sur les personnages, et même si ce n'est pas explicite, aller gratter pour qu'apparaissent, parfois dans pas grand-chose, un simple détail, une mimique, un visage, la part sombre, ou en tout cas le fond de l'âme, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a vraiment une recherche là-dessus dans votre travail depuis toujours, je pense.
Oui, c'est vrai que ce qui m'a toujours... passionné dans le cinéma, et c'est la possibilité de regarder ce qu'il y a à la surface des choses, mais aussi ce qu'il y a en dessous, ce qu'on ne voit pas. Et le cinéma se prête particulièrement bien à cette exploration-là, parce qu'on peut raconter deux choses à la fois. Une personne qui peut dire une chose et dans son regard, on voit qu'il pense exactement le contraire dans sa tête. Le montage aussi permet d'explorer deux choses à la fois. Et c'est vrai qu'avec Gilles, on aime beaucoup Hitchcock, Lynch, Kubrick qui jouent là-dessus aussi. Enfin, où il y a toujours un côté un peu mental. Ces histoires ne sont pas juste des histoires réalistes et naturalistes, mais sont aussi l'expression de pulsions enfouies en nous, avouées ou non avouées. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Oui. Responsabilité. Alors, responsabilité, ça me fait penser... Alors, d'une part, quand on est réalisateur, il y a une responsabilité déjà de mener à bien le film, d'essayer de faire son travail le mieux possible. Il y a une responsabilité aussi envers l'équipe, qu'on a envie d'embarquer les comédiens, tout cela. Et après, il y a aussi autre chose qui est presque une responsabilité aussi de citoyen ou de réalisateur citoyen, d'essayer de ne pas... avec ses œuvres, de ne pas être hors sol, que ça ait aussi
une résonance, que ça puisse questionner
le monde. Et ça j'y crois assez.
Vous avez aussi, en tout cas pour Dossier 137 et pour La Nuit du 12, été à la rencontre d'enquêteurs, d'enquêtrices. Vous avez fait des moments d'immersion avec ces policiers. Est-ce que vous avez vu Poulet frites ?
Oui.
Je voudrais qu'on écoute Jean-Michel Lemoyne, qui est donc le flic de Poulet frites. Alors, Poulet frites, c'est un long métrage estampillé striptease. Ça a été tourné en 2003. Ça a été remonté et c'est sorti il y a 3 ou 4 ans. Et c'est une enquête sur 2 ou 3 ans, je pense, où on suit une équipe de police. Et puisqu'il est question de responsabilité, on parle là, vous avez rencontré des flics, mais vous avez aussi rencontré des victimes. On va l'écouter, Jean-Michel Lemoyne. Aujourd'hui, je pense qu'il est passionné, mais il était devenu chef de la criminelle à Bruxelles. Et on va l'écouter parler de la responsabilité que lui considère avoir dans son métier. Et on en parlera après.
Je n'accepte pas les violences, tout ce qui est injustice, qui détruise le tissu social, qui empêche... C'est la loi de la jungle, alors... Et donc, ça divise, ça isole, ça cause des blessures irréversibles, qu'elles soient psychiques ou physiques ou autres, parmi les familles des victimes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, constamment en tête dans notre travail. Hein, parce qu'il y a cette proximité avec les familles des victimes qui est vraiment très, très importante. Et c'est une source de valorisation aussi. Hein, parce que quand parce que nous, notre dossier, on l'amène du début, c'est-à-dire de la scène de crime, jusqu'à la cour d'assises où on va défendre notre travail, etc. Et on est toujours en relation, évidemment, avec les familles des victimes. Et donc, après, on a une reconnaissance de leur part qui est énorme.
Peut-être, pour faire votre métier, il faut être un peu idéaliste aussi.
Mais en tout cas, il faut être sensible à ces valeurs qui sont très importantes et ne pas les accepter comme ça. Donc, pouvoir se dire, mais non, c'est une injustice, il faut que je la démontre et que je défende ceux qui en sont victimes. Quoi. Donc, c'est important, évidemment.
Quand vous revoyez Poulet Frites aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous vous souvenez forcément de l'enquête. J'imagine qu'il y a des choses qui ressurgissent. Est-ce que votre côté exigeant dit « Oh là, j'ai raté, enfin, on n'aurait pas dû faire comme ça, on aurait dû faire autrement ?»
Bien sûr. Ouais. Donc, j'ai commis une erreur. Je m'en veux beaucoup.
Ça passe avec le temps ou pas ?
Non.
Et ça, est-ce que le fait de revoir le film, ça ravive ?
Oui. C'est un échec. Hein.
Jean-Michel Lemoine, donc, lui, c'est un vrai flic.
Oui, je l'ai rencontré il y a 2 ans. Je sais qu'il est très, très fan de La Nuit du 12.
Oui, d'ailleurs, dans l'émission où il était venu parler, il avait dit d'ailleurs qu'il avait beaucoup aimé La Nuit du 12 et que c'était très proche de sa réalité.
Oui, il me l'avait dit.
Ça fait plaisir, ça, Dominique Moll, non ?
Ah bah, oui, bien sûr, oui. Évidemment, oui. Bah, c'est vrai que La Nuit du 12 essaye de raconter comment un enquêteur gère le fait de ne pas résoudre une enquête, et ça arrive, et c'est pas parce qu'il est nul ou incompétent, c'est, enfin, parfois on peut se reprocher des erreurs après coup, mais parfois c'est juste parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien, et que voilà, il faut se débrouiller avec cet échec, et c'est pas simple à vivre. Alors ce que j'ai trouvé intéressant en écoutant l'extrait, ce qu'il dit au début, enfin ce qui est très juste, enfin par rapport aux victimes, aux familles des victimes, etc. Et évidemment, lui là, il parle pas de cas de violence policière, mais si on applique ça à des cas de violence policière, où il y a aussi des victimes et des policiers qui commettent des actes qui sont répréhensibles, tout d'un coup, évidemment, ça devient plus compliqué parce qu'on sent bien que enfin là, je ne parle pas du tout de Jean-Michel Lemoine, hein, mais que la profession a un réflexe comme ça de protection, de solidarité, de corporatisme qui a du mal à admettre ça, enfin en tout cas les syndicats policiers et même le politique, les ministres de l'Intérieur qui n'arrivent pas à prononcer le mot violence policière parce qu'ils ont peur de se mettre la police à dos. Mais le problème, c'est qu'ils ne rendent pas service à tous les policiers qui veulent bien faire leur travail. C'est ça qui est problématique. Enfin, il y a évidemment un mal-être dans la police. Enfin, il y a un taux de suicide très élevé. Enfin, c'est un métier difficile et éprouvant. Mais tant qu'on pensera que ce mal-être, on pourra le compenser en donnant encore plus d'armes, en confortant les policiers encore plus dans un rôle, une espèce de rôle de forteresse assiégée parce que tout le monde les détesterait, on ne va pas avancer. Ce qui est important, c'est de redonner un sens à ce métier, d'en refaire une police réellement républicaine et citoyenne, et de retisser le lien entre la police et des pans entiers de la population qui sont très abîmés. Donc c'est un chantier immense, mais ça passe d'abord par le fait d'avoir le courage de nommer les choses et les dysfonctionnements. Et c'est pas pour autant qu'on jette l'opprobre sur toute la police, évidemment.
Par rapport à ce que Jean-Michel Lemoine disait, que pour faire ce métier de policier, il faut aussi être touché par les injustices et avoir envie de résoudre ça. C'est pas un métier idéaliste, mais qu'il faut quand même avoir envie de combattre ça. Vous disiez, juste avant qu'on l'écoute, que dans votre cinéma, vous aviez aussi, par rapport à la responsabilité, quelque chose de l'ordre du citoyen qui intervient. Ça vous parle, ça, justement, le fait d'essayer d'aller pointer l'injustice, d'aller...
Oui, après, enfin, il faut en tant que réalisateur, ça peut pas être le but premier, enfin, parce que voilà, on n'est pas sociologue, on n'est pas homme ou femme politique, on fait des films, donc il faut, si on se dit je veux faire un film pour dénoncer telle ou telle injustice, je pense que c'est un mauvais point de départ. Il faut avoir le désir, il vient d'abord d'imaginer une situation narrative, un personnage, etc. Et on part à partir de ça, mais après on peut. Et c'est l'avantage du film de genre. Enfin, le film de genre, c'est voilà, il fonctionne sur des codes de suspense, de tension, ouais, de rebondissement.
Vous avez pratiqué aussi, hein, et pas mal de fantastique aussi dans certains de vos films.
Oui, oui, aussi.
Pas
oui,
cette fois-ci. Mais...
Oui, tout à fait. Déjà d'embarquer le spectateur, de le happer au début, de le captiver, de si possible ne pas le lâcher jusqu'au bout. Et une fois qu'on l'a ferré entre guillemets, on peut en profiter pour glisser des thématiques qui vont au-delà du genre et qui peuvent éventuellement questionner la société, etc. Mais il faut que ça vienne en plus dans un deuxième temps et que ce soit pas quelque chose de démonstratif.
Questionner, c'est important, et je pense que face à vos films, c'est ce avec quoi on ressort. Hein. Un questionnement, c'est-à-dire que vous ne donnez pas à penser non plus, il n'y a rien de... C'est-à-dire qu'on ressort effectivement avec des questions.
Oui, je crois plus au fait de questionner les choses plutôt que dire « moi je sais, moi je connais la vérité, écoutez-moi, je vais vous asséner la vérité », ça me paraît très, très prétentieux.
Il y en a qui le font. Hein.
Oui, certes, mais moi je préfère questionner, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas nommer les choses. Enfin, il ne s'agit pas de dire « je ne prends pas position », enfin questionner. En nommant les choses, c'est aussi une façon de prendre position.
Oui. J'ai oublié de vous poser la question aussi tout à l'heure par rapport au collectif et au César que vous avez reçu pour la nuit du 12. C'est vrai que le César du meilleur film, vous l'avez découpé et partagé avec l'équipe ?
Oui.
C'est vrai, vous l'avez tranché ?
Oui, je l'ai fait trancher en 20 tranches. Ouais. Donc c'est creux à l'intérieur. Donc les deux bouts, ça peut faire des cendriers.
Ah donc c'est creux à l'intérieur. Je me demandais comment on tranchait.
C'est assez lourd, mais
c'est creux. Comme ça ressemble à une agglomération de métal. On se dit que c'est plat. Non, c'est creux.
Non, parce que c'est des moulages en bronze. Donc, puis c'était, enfin, il fallait, parce qu'on a pris mon beau-frère et une entreprise de bâtiment, et donc on a dû utiliser une scie qui scie les IPN, enfin, donc les porteurs en métal dans le bâtiment pour scier le César, parce qu'il est quand même assez, assez résistant. Donc je l'ai scié en 20 tranches, et puis on a fait une petite cérémonie dans le jardin de la production, et pour décerner les tranches à 20 membres de l'équipe ou du cast, voilà, pour que chacun en ait un petit bout.
Si vous n'en aviez eu qu'un, vous en avez eu 6. Enfin bon, il y en a qui... Certains sont partis à des gens de l'équipe. Mais si vous n'en aviez eu qu'un, vous l'auriez tranché aussi ?
Ouais, je pense. Enfin, après, ça dépend lequel. Là, c'était le meilleur film, donc il se partage avec tout le monde. J'ai gardé celui
de la réalisation
et celui de la meilleure adaptation et le César des lycéens. Donc c'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns.
C'est vrai que vous aviez encore
en stock,
de quoi caler vos livres sur les étagères. Dominique Moll, Dossier 137 est au cinéma pour l'instant. Si vous deviez aller au cinéma voir un autre film pour l'instant que Dossier 137, vous iriez voir quoi ?
Là, en ce moment...
Oui, qui est à l'affiche en même temps. C'est dur.
En fait, il y a un film que j'ai raté... qui est sorti en Belgique depuis un moment, mais qui sort seulement en France et que je n'ai pas encore vu. C'est Kika, de Alex Poukine, que je suis très curieux de voir. Enfin, on a fait une émission de radio ensemble à Paris et j'aimais beaucoup comment elle parlait de son film. Donc voilà, ça en serait un, par exemple.
Bon. Merci d'être venu.
Avec plaisir.
Et je rappelle que Dossier 137 avec Léa Drucker, entre autres, est à voir au cinéma pour le moment et puis une prochaine fois.
Merci, avec grand plaisir.
Vous trouverez des tas de petits papiers dépliés et commentés par nos invités dans les épisodes précédents de notre podcast. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis si ça vous dit, vous pouvez aussi nous contacter par mail, nous envoyer vos idées, vos suggestions, vos remarques. On sera toujours heureux de vous lire. Les petits papiers @rtbf.be. À bientôt.